Radio Spirale. La 40e rencontre québécoise internationale des écrivains avait pour sujet « Que veut la littérature aujourd'hui? » On entendra ici la conférence inaugurale d'Andrea Michaud qui nous présente un regard lucide et sans concession sur la condition d'écrivain aujourd'hui.
Alors bonsoir. Chers écrivains, chères écrivaines, chers amis de l'Académie, chers amis de la littérature, bienvenue à la 40e rencontre québécoise internationale des écrivains, organisée sous l'égide de l'Académie des lettres du Québec. Quand la rencontre a été créée en 1972, écrit son fondateur Jean-Guy Pilon, nous pensions au rayonnement de la littérature québécoise, certes, mais aussi au dialogue entre les écrivains québécois et les écrivains d'autres littératures. Nous voulions inviter les écrivains d'ailleurs à mieux connaître la littérature québécoise et par le fait même à établir des liens d'amitié avec les écrivains d'ici. La rencontre correspondait à un besoin vital et elle y a répondu. Elle a accueilli plus de 500 écrivains de 50 pays différents qui ont accepté de réfléchir avec des écrivains québécois sur des thèmes aussi diversifiés que l'écriture est-elle récupérable, la femme et l'écriture, la blessure, Eros et ses fictions l'année dernière. Cela en fait un événement unique en son genre au Québec et au Canada. Son 40e anniversaire sera souligné l'automne prochain à la Bibliothèque nationale du Québec par une lecture des textes marquants qu'on y a entendus au fil du temps. Depuis cette fondation, depuis 1972, le Québec a changé, le monde a changé, le rapport du Québec au monde a changé. Les conditions d'exercice du métier d'écrivain, les échanges entre les littératures, tout a changé. Mais on ne peut pas dire qu'on parle davantage de littérature. C'est pourquoi la rencontre a ressenti le besoin de réinterroger la volonté d'écrire, avec son thème de cette année, « Que veut la littérature aujourd'hui ?» Pour ce 40e anniversaire, nous avons adopté l'angle du temps, sans pour autant nous consacrer à la rétrospection. Deux mots vont certainement occuper notre pensée, le verbe « vouloir » qui, après Freud et Nietzsche, demande à être reconjugué dans toute son ampleur par la littérature, et le bel « aujourd'hui » qui, pour être ponctuel, n'en est pas moins infini. Il me semble remarquable de tenir cette rencontre aujourd'hui dans une ville où depuis des semaines, les étudiants du Québec affirment leur vouloir vivre. Il n'y a pas de hasard. Je n'ai pas cité au hasard non plus des noms de philosophes et de penseurs en parlant de littérature. Je l'ai fait en souvenir d'un philosophe, membre de l'Académie des lettres du Québec, décédé tout récemment, dont la pensée n'eût pas été étrangère à notre propos, car il n'a cessé de réaffirmer la souveraineté du Créateur et l'étroite solidarité de la pensée et du travail de la langue. Je veux dédier cette 40e rencontre québécoise internationale des écrivains à la mémoire de celui qui fut mon professeur, à notre collègue et ami Claude Lévesque. Si la rencontre a survécu à 4 décennies, c'est aussi grâce au vouloir de messieurs Jean-Guy Pilon, Jean Royer, de mesdames Nicole Brossard, Louise Dupré, qui m'ont précédé à sa direction. Les temps ont changé, mais la rencontre n'a jamais cessé d'exiger du temps. Je les remercie chaleureusement de l'avoir inventé, développé, défendu, aimé, en d'autres termes, voulu. Merci en particulier à Louise Dupré, directrice ces trois dernières années. Sans son aide et son amitié, je n'aurais pu assimiler les mille et une tâches que représente la préparation de ces 2 jours et demi de convivialité. Merci au comité de la rencontre composé de Nicole Brossard, Denise Desautels, Hélène Dorion, Naïm Katan et Pierre Neveu. Merci à Patricia Lamy, notre attachée de presse, et à Maude Levasseur, secrétaire de l'Académie des lettres du Québec. Il est important pour une rencontre d'écrivains de communiquer avec le public lecteur. Je veux aussi vous inviter, chers amis de la littérature, demain soir, à la lecture publique animée par Denise Desautels à 17h30 à la Maison de la culture du plateau Mont-Royal. Vous pourrez entendre 11 des écrivains invités. Dans le même désir de communication, nous tiendrons après la rencontre 2 tables rondes, l'une au Festival Métropolis Bleu jeudi le 20 avril à 17h30 et l'autre au Festival de la poésie de Montréal samedi le 2 juin. De plus, grâce à son système de balado-diffusion, Radio Spirale mettra les conférences et les échanges à la disposition du public. On pourra lire le texte de la conférence que vous allez entendre ce soir dans le numéro d'automne de la revue Les Écrits et les communications des écrivains invités sur le tout nouveau site internet de l'Académie des lettres du Québec. Au fil de ces années, la rencontre québécoise internationale des écrivains a multiplié ses alliés qui sont souvent devenus des amis. Il me fait plaisir de remercier le Conseil des arts et des lettres du Québec, le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts de Montréal pour leur appui, de même que le Consulat général de France, le Consulat général du Mexique, le Consulat général de Suisse et Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture, la délégation Wallonie-Bruxelles au Québec, l'Institut culturel italien de Montréal et la Direction générale des industries culturelles et du livre d'Espagne. Merci à nos partenaires l'UNEC, Radio Spirale, CIBL, la librairie Le Port de Tête, la Maison de la culture du plateau Mont-Royal, le Festival Métropolis Bleu et le Festival de la poésie de Montréal. Merci au président de l'Académie des lettres du Québec, Louis Caron, à Yvan Lamonde, son vice-président, et Jean-Claude Corbeil, son secrétaire général. Enfin, merci à Danielle Simpson, présidente de l'Union des écrivaines et écrivains du Québec, et à son directeur, Francis Farley-Chevrier, de nous avoir permis d'être ici même, ce soir. Un verre de l'amitié vous sera offert par l'UNEC et la rencontre après la conférence et vous aurez l'occasion de faire la connaissance des écrivains invités cette année. Leurs livres sont en vente juste là, à la table de la librairie Le Port de Tête dans l'entrée. Je veux vous les présenter, ces écrivains. Du Québec d'abord, Oana Avassili Kiowai, Paul Bélanger, Daniel Canty, François Hébert, Bertrand Laverdure, Émile Martel, Andréa Michaud, Chantal Neveu et Dominique Robert. Du reste du Canada, Louis Cabri et Lisa Robertson. De l'étranger, Maria Teresa Carbonet d'Italie, Véronique Denne de Belgique, Sylviane Dupuis de Suisse, Barbara Pogasnik de Slovénie, Olivia Rosenthal de France, Santiago Trancon d'Espagne et Minerva Margarita Villarreal du Mexique. Nous sommes heureux, chers écrivains, que vous ayez accepté notre invitation. Et j'ai maintenant le plaisir de vous présenter la conférencière qui aura la tâche d'entrer dans le vif du sujet, la romancière Andréa Michaud. Après sa conférence, ma collègue Louise Dupré qui a généreusement accepté la responsabilité d'animer la rencontre cette année, amorcera les commentaires et les questions que ne manqueront pas de susciter ses propos. Né dans un petit village de Beauce, André A. Michaud a étudié à l'Université Laval de Québec où elle a fait un baccalauréat partagé entre trois matières, la philosophie, le cinéma et la linguistique. Elle a ensuite fait une maîtrise en littérature à l'Université du Québec à Montréal. Chacune de ces matières nourrit les 9 romans qu'elle a écrits et qui composent une œuvre déjà imposante, d'une grande unité de ton et de style. À l'instar de la romancière Iris Murdoch, qui elle aussi aime la philosophie, André A. Michaud pousse l'imagination romanesque aux limites du fantastique ou de la folie, dans un monde soumis au cadre de la raison, mais dans lequel il faut accepter que l'on ne peut tout expliquer. Un jeune garçon disparaît dans la forêt, on ne retrouvera jamais son corps. La scène du drame a un seul témoin, la petite fille qui l'accompagnait ce jour-là au bord du bassin magique. Dans « Rivière tremblante », le plus récent de ses romans, paru en 2011, ce qui occupe André A. Michaud n'est pas tant l'énigme, pourtant posée avec une force rare, ni le suspense qu'elle maintient avec virtuosité. Sa maîtrise des mécanismes du récit l'amène plutôt à débusquer les multiples visages que prend la culpabilité, à approfondir les méfaits de l'inexplicable, la césure que la perte et le deuil créent dans la conscience, la quête interminable qu'elle déclenche, l'enchaînement diabolique de la douleur, du déni, de la paranoïa. Ces expériences psychiques dont le roman d'imagination est le laboratoire infini. Extrêmement visuelle, son œuvre est également imprégnée par le cinéma, en particulier américain, par ses références onomastiques, intertextuelles, et par son art de la scène, sa capacité à montrer ce qu'on ne voit pas. 3 de ses romans sont d'ailleurs en scénarisation. Leur décor est celui de la nature menacée par l'homme et s'inspire le plus souvent des régions situées aux confins du Québec et de la Nouvelle-Angleterre. Proche du conte, son écriture n'en reste pas moins fidèle à la prose concrète de la vie quotidienne en Amérique du Nord. Cet espace, que l'on pourrait dire polyédrique plutôt que strictement réaliste, est celui de la forêt immémoriale, des animaux fantastiques qui la peuplent, des villages qui la jouxtent dans l'éblouissement des saisons. L'été illumine le ravissement, prix gouverneur général du Canada et prix littéraire des collégiens en 2001, roman centré comme Rivière tremblante sur le danger d'être un enfant, et qui forme avec ce roman un diptyque d'une symétrie affolante pour qui en a lu les 2 volets. Mirror Lake, en 2006, prix Ringuet de l'Académie des lettres du Québec, est peut-être, comme son titre et de multiples indices le suggèrent, l'axe de symétrie de ce diptyque qui serait ainsi un triptyque. On découvre peu à peu la composition de cette œuvre, la signification diffuse qui se dégage de la forme romanesque. Différent et pourtant semblable, Lazy Bird, paru en 2012 sous le patronage de John Coltrane, est centré sur un personnage qui anime une émission de musique la nuit dans une petite ville du Vermont. Un solitaire obligé, rejeté depuis toujours et par tous à cause de sa différence, à cause de sa couleur, car il est né albinos. Originaire du Québec, il dit se sentir dans un roman américain traduit par un Québécois, ce qui est une autre manière de définir le travail d'André A. Michaud, synthèse de la langue française et des paysages nord-américains. André A. Michaud a écrit dans d'autres genres que le roman, entre autres pour le théâtre. Elle collabore à de nombreuses revues littéraires. Elle pratique le métier de réviseur et de rédactrice Elle a rédigé un guide linguistique, Le français en santé, qui lui a valu une mention d'honneur au mérite du français. Elle construit sa propre formule de l'art du roman pour y faire entendre sa voix, très juste, la voix d'une femme que sa conscience aiguë de la fragilité humaine éloigne de toute sentimentalité. Le suspense est entier. Que nous dira-t-elle donc ce soir sur ce que veut la littérature aujourd'hui? Alors, Andrea Michaud.
OK, j'ai pas à parler directement dans le micro, ça fonctionne. OK. Merci beaucoup, Monique, pour cette belle présentation très touchante. Merci aussi à l'Académie des Lettres de m'avoir demandé de présenter cette conférence. C'est un honneur pour moi. Vous constaterez ma nervosité. J'imagine que au bout d'une page ou deux, ça va passer, mais enfin. Moi aussi, j'ai un très grand ami qui est mort récemment. Alors, je dédie ce texte à l'ami mort. Que veut la littérature aujourd'hui? La question est vaste et vague et suppose un objet, le littéraire, dont nous aurions une définition commune. Quand pour l'un, c'est le mot au seuil du silence, une partition pour piano muet de John Cage. Pour l'autre, une foule hurlante, quelques filles assoiffées. Pour l'autre encore, l'expression du doute fondant toute existence. La parole d'une belle orageuse et rageuse, décrivant les dessous de son espèce, caleçon de dentelle dégageant une odeur suspecte. Arrêter une définition de la littérature me semble aussi difficile que d'obtenir un consensus sur la couleur de la vérité. Aussi irai-je de ma propre définition pour dire que la littérature est ce qui m'emporte, ce qui me pousse à marcher sur des sables instables, des territoires aussi mouvants que la pensée, que c'est Cuba qui coule en flammes au milieu du lac Léman, pendant que je descends au fond des choses, pendant que je m'abîme au creux de ces paysages constellés d'oranges vertes et de déserts mauves. Ligogardour, Ipsiote, Maxa, Armita, Flush. Que ces jeunes filles allant voir si la rose, que ces roses c'est la vie visitant l'archipel où la reine règne sur les flots de sa rame de frêne gouverne ses îlots. And the rose is a rose is a rose. Quelques fleurs artificielles, quelques paradis sans firmament, échoués sur des étangs qui gisent gelés. Je dirais que c'est un pays, un ouvrier et ses lendemains de veille, quand ça prend tout pour rentrer sa carte de punch dans le slot de la cloque. Des mots, words, words, words. Parfois brefs et sonnants comme des claquements ou des aboiements. Wolf, Brock, McCarthy, Cormac, Kerouac, Jack, Kafka, Zweig, Kazan. Que c'est l'amour s'agenouillant au pied fleuri d'un balcon sombre, qu'il s'appelle Roméo ou Cyrano. Que c'est mon ami Jacques frappé par la mort pendant que j'écrivais ces lignes, crevant de douleur avant d'avoir achevé son dernier poème. Tu es un livre ouvert pour des bourreaux analphabètes. Je dirais que c'est la voix qui essaie de dire, ne disant rien et tout à la fois, dit à Vipart, à Cressel, Formiclax. Que c'est Rimbaud cessant d'écrire, Salman Rushdie et la fatwa lancée contre son œuvre. Que c'est l'archipel du Goulag et tous ces archipels où la voix des insoumis retentit malgré les bâillons. Je dirais les yeux bleus, cheveux noirs, en pensant à l'ami mort, cheveux noirs, yeux gris verts. Puis j'interromprai cette liste que je pourrais poursuivre à l'infini. De l'épopée de Gilgamesh, au vers de ce jeune poète pas encore né, de ce jeune poète inconnu, un peu balourd aux entournures, mais animé d'une rage qui aura raison de sa maladresse, pour me demander ce qu'il veut, ce poète, et ce que peut signifier vouloir. Car sous la forme impérative du vouloir se trouve aussi la profondeur viscérale du désir, puis la foi inhérente à tout espoir, à toute prière adressée à quelque dieu aveugle. Derrière ce que je peux présenter sous les traits de l'exigence, il y a cette part du vouloir se tenant souvent dans l'ombre du secret, enfant convoitant l'oiseau vert, pépiant dans le soir rougissant. J'avancerai entre ces trois pôles, désir, vouloir, espoir, entre l'enfant et le Dieu sourd, pour tenter de cerner ce qui relève de la foi ou de la juste revendication, et ce que veut la littérature, de même que ceux et celles qui la font. Dans la cave, Thomas Bernard parle de ce métier dont il n'y a absolument rien à espérer, le métier d'écrivain. Et malgré que je sois parfois tentée de me rallier à ce point de vue, je pencherai aujourd'hui du côté de ce que Bernard nommerait peut-être l'illusion, mais que je décrirai pour ma part comme le légitime désir d'exister, ou, pour reprendre les mots d'Éluard, comme le dur désir de durer, et me demanderai ce que la littérature veut, désire, espère, et en quoi ces désirs se distinguent des désirs de l'autre, de ceux de la science ou de la musique, de l'homme cambré derrière son saxophone. Trois grands crapauds s'en vont chantant. C'est l'image qui me vient à l'esprit à l'évocation de cet autre, pour des raisons que j'ignore, parce qu'un crapaud se trouvait là, au coin de mon œil, prêt à supplanter la buse et l'orignal. Ainsi qu'un lac m'apparaît au lieu de la mer lorsque j'écris que je pars en voyage. Trois grands crapauds s'en vont chantant, seuls sous les cieux de quelque orignal évincé. Que veulent les crapauds? Où s'en vont les crapauds? Ils s'en vont à l'étang, car l'étang est le lieu où s'en vont les crapauds heureux. Trois jeunes lapins s'en vont sautant. Où s'en vont les lapins? Ils s'en vont au terrier, dans ce creux ombragé où le nid de poils fauves exclut des rêves agités la menace de la buse et du faucon. Le désir du lapin est simple, le désir du crapaud est prévisible, le désir de la mouette aussi, et celui du harfin et celui du renard, tout comme l'est le désir de l'homme, toujours même et pareil, courbé sur son piano ou raturant les deux dernières heures de sa vie. Que veut cet homme? Que veut cette femme qui engueule la page noire, qui fracasse son miroir et reprend à zéro? Ma réponse, évidemment, sera aussi simple et prévisible qu'un désir d'homme ou de femme. Ils veulent ce qu'ils ont de tout temps voulu et ce qu'ils voudront demain. Ils veulent un étang à eux, un terrier à eux, une chambre à eux, dirais-je pour paraphraser la célèbre formule de Virginia Woolf, qu'il me semble possible d'appliquer aujourd'hui à tous sans la dénaturer. Femmes et hommes, romanciers, poètes, dramaturges ou essayistes, conteurs d'histoire ou archéologues, penseurs de notre histoire. Le désir n'ayant pas changé au fil du temps, je pourrais esquiver la question de l'aujourd'hui, mais ce serait négliger le fait que, si le désir est quasi immuable, les éléments qui le contraignent ne sont pas toujours identiques. Par aujourd'hui, j'entendrai donc cet horizon plus ou moins limité de la vie de chacun de mes contemporains, ce présent à l'omniprésence fuyante, se dressant à la verticale entre passé et avenir, mais ne maintenant cette position que parce qu'il peut s'appuyer sur l'antérieur. La verticalité que j'évoque est une verticalité par défaut, se définissant par son centre, soit son point d'équilibre, mais pouvant ployer vers l'arrière ou l'avant, selon que le poids du passé ou de l'avenir insiste, et former ainsi l'arc d'un cercle unissant l'achevé et le devenir. Une verticalité érigée dans la rondeur du temps. Et me figurant cette frêle et variable verticalité, je regarde les arbres devant moi, compris dans le rectangle de ma fenêtre. De la position où je me trouve au moment où j'écris, je peux en dénombrer 23. 23 érables gris dont la verticalité s'affirme à mesure que s'épaissit leur passé, mais qui s'inclineront un jour, quand l'indétermination de l'avenir sera chose d'hier. 23 érables gris. Pas un pareil, pas un me racontant la même histoire. Il était une fois un chevreuil, trois écureuils allant dansant. Il était une fois des chevaux, des juments harnachés de couleurs, Princess, Beauty, Black Iron Lady. Regardant maintenant devant moi, je compte 10, 20, 50 visages. Pas un pareil, pas un me racontant la même histoire. L'un songeant à la fin des bêtes, à la fraîcheur du soir tombant sur la sueur de Beauty, l'autre voyant le cheval cravaché, hennissant la folie de Nietzsche, l'autre plongeant dans la mer des dernières vacances. Pas un pareil, et la mer toujours imprenable. Devant tous ces visages et leurs pensées éparses, Je me vois dans l'obligation de distinguer l'arbre de la forêt, la littérature de ceux qui la font, et de me demander si le désir de l'arbre est aussi celui de la forêt, si ce que veut l'écrivain est également ce que veut la littérature, car si leur vouloir est parfois identique et leur survie intimement liée, l'un a des besoins d'homme, de femme, alimentés à la solitude intrinsèque de l'individu. Si je prétends que l'un veut une chambre à soi, je parle d'un espace qui est aussi une durée, une pièce dont les murs retiendraient et contiendraient le temps dont a besoin la main pour achever l'œuvre. On écrit dehors, même enfermé, claustré, dit Pierre Ouellette dans La vie de mémoire. On est dans son lit ou à sa table, cloué, séquestré entre les quatre murs de sa propre tête, quand la mémoire nous jette et nous projette ailleurs, nous met à la rue ou n'importe où, dans une jungle, dans un désert, où elle nous perd, dans les bas quartiers, dans le fond des bois. Là-bas, infiniment là-bas. Sa chambre est un champ, alors, une ruelle ou un sentier, un square ou un boulevard, un parc ou un boisé. Cette chambre ouverte à tous les vents, l'écrivain en a besoin pour parcourir la jungle ou le désert, sans devoir pour cela combiner à ce qui constitue déjà un métier à temps plein en soi, quelque activité de nature à repousser l'huissier, à retarder la lettre ou le semant de payer les quelques watts consommés par la lampe sous laquelle il s'écorche les yeux. Quand j'évoque cette chambre où seule peut avoir lieu l'écriture, je parle de la situation de l'écrivain, de la condition d'un être sans véritable statut, de l'exercice d'un métier que la plupart considèrent comme un loisir, un à côté, une activité à laquelle on s'adonne en dilettante quand on n'a rien de plus utile ou de plus productif qui nous appelle. Je les vois clairement, ceux pour qui l'écriture n'est qu'une forme d'amateurisme à la portée de qui décide un matin « Voilà, ce soir je serai écrivain ». Il s'agit de cet homme et de cette femme aux visages identiques qui se penchent sur la table que j'occupe dans quelques foires où je fais office de clown triste, colérique, funeste, fruste, braillard ou ridicule. Leurs yeux parcourent la niche où je me trouve, glissant à peine sur les titres couvrant ma table, puis portent une main à leur ventre ou à leur corsage pour me confier que lui aussi, elle aussi, a une idée géniale en tête, l'histoire de sa vie palpitante ou celle de l'oncle Arthur. Arthur, où c'est que ta mille corps me souffle à la colère du clown, pendant que l'autre poursuit et m'apprend qu'il ne lui manque que du temps, un peu de temps, pour coucher son histoire sur le papier. Puis il et elle s'en vont, la tête haute, futur romancier au chevet de la gloire. De mon côté, je somme le clown qui s'est accoquiné avec Arthur de rester calme, en avançant que, du haut de leur ignorance, cet homme et cette femme ont raison sur un point. Il faut du temps pour écrire, oui, mais il en faut beaucoup. Mes livres sont là, sur la table, pour en témoigner. Il faut une vie, il faut l'un de ces longs aujourd'hui où les milliers de mots lus se cimentent aux milliers de mots écrits, sur la table où le crayon creuse les milliers d'heures passées à tenter de comprendre les arbres. Il faut du temps, et une chambre où loger ce temps, une table où poser le crayon. C'est Yves Beauchemin, je crois, qui a dit un jour que des écrivains à temps partiel ne pouvaient donner qu'une littérature partielle. Je le cite de mémoire vague et de faïence, ainsi que mon ami Guy qualifie ma faculté de souvenance. Mais je me range à son avis. L'écrivain ne devrait pas être acculé au temps partiel, occupé à rogner sur ses nuits et ses jours de repos. Pendant qu'il boucle ses fins de mois en vendant sa chair ou en troquant pour quelques dollars la substantifique moelle du texte qu'il n'écrira pas ou n'écrira qu'à demi. Il ne devrait pas être condamné à l'épuisement du double emploi, à l'accumulation des jobs et jobinettes, à l'essoufflement de qui n'a plus le loisir de s'asseoir pour regarder, quand nous savons que, pour écrire, il faut du temps pour s'asseoir et du temps pour regarder. Mais comment sortir de ce cycle du mi-temps, du quart de temps, du temps assuré? Comment retrouver le temps du regard clair? L'écrivain se dit parfois que si nos gouvernements avaient un peu de volonté, un peu d'honnêteté, que s'ils ne considéraient pas eux aussi la littérature comme une activité marginale, à l'importance toute relative, les choses pourraient s'arranger un peu. Or, les pouvoirs actuels ne semblent avoir de volonté que pour le rentable. J'entends par là le monnayable, le politiquement lucratif, pétrole, sable bitumineux, gaz de schiste et autres matières ne profitant véritablement qu'à l'industrie. Au diable les sous-sols, les forêts, l'eau pure, les enfants et les poètes renaître. Au diable la littérature, les milieux humides et les grenouilles. Quand nous savons pourtant, avec Nietzsche, que tout ce qui a un prix n'a pas de valeur. Dans ce contexte, l'écrivain ne songe même plus à cette république du penseur imaginée par de lointains penseurs. Il rêve plutôt d'une république où il pourrait se faire entendre, où les élus ne feraient pas la sourde oreille à ses revendications et ne fouleraient pas de leurs gros sabots un territoire acquis de haute lutte, où ils troqueraient le mépris pour le respect et accorderaient à l'écrivain le statut qu'ils accordent à n'importe quel travailleur. Mais en littérature, comme en bien d'autres domaines artistiques, ils semblent actuellement en aller des droits comme des belugas. On se désole de leur disparition en calculant le profit qu'elle engendre. L'écrivain ne veut pas être le beluga, pas plus qu'il ne veut être la grenouille s'en allant écrivant dans l'ombre du prédateur. Il veut qu'on le reconnaisse et qu'on admette que s'il se trouve bel et bien à la base de la chaîne alimentaire nourrissant l'entière industrie du livre, il mérite plus que quelques mouches au déjeuner. Mais c'est une vieille rengaine que je chante là, un peu lassante, je sais, un vieil air aux accents démodés, une ritournelle aux échos morts, aussi vieille que les murs de la chambre de Virginia, que nous n'avons pas encore réussi à percer de cette fenêtre par laquelle un petit vent doux pourrait circuler entre l'extérieur et le dedans. Nous en sommes encore là, près d'un siècle après Wolfe, à chanter cet air qui nous racle la gorge et à réclamer la chambre que cette dernière revendiquait pour Jane Austen. L'écrivain veut une chambre et la littérature de même, une pièce qui ne soit pas cette obscure remise dont on le sort quelquefois par année, pour l'exposer, elle aussi, comme une bête de foire, dans des salons où elle se sent à l'étroit, entre les étalages de best-sellers et les livres de cuisine, et de derrière lesquels on peut parfois voir surgir son œil inquiet, triste, colérique ou fiévreux, dans l'ombre des projecteurs dirigés sur la vie palpitante en deux tombes de l'oncle Arthur ou de la dernière vedette de l'heure. Elle veut une chambre, simplement, pas un château, pas une demeure de 26 pièces, où elle se perdrait à la recherche de quelque invité égaré, pas une table dressée pour accueillir 50 convives, car les convives, nous le savons tous, ne sont jamais très nombreux à cette table. De toute façon, la littérature sait que certains échos portent mieux dans ces chambres dont l'exiguïté n'est qu'apparente et dont on peut déplacer les cloisons à volonté. Espérer des espaces où elle pourrait réunir des foules est un espoir défendable, mais qui tient presque, aujourd'hui et ici, de l'utopie. Il n'y a peut-être que Neruda à avoir accompli cet exploit auprès des mineurs chiliens. Il n'y a peut-être que les poètes surgis des champs de bataille, là où la misère comprend soudain la nécessité de la beauté. Mais faut-il souhaiter la misère pour que la mine devienne espace à ciel ouvert? Tablons plutôt sur ce que la littérature possède déjà, sur sa capacité à toucher cet homme qui referme le godot de Beckett en se demandant s'il a déjà cru en Dieu, sur cette jeune fille qui dépose le soif de Marie-Claire Blais en sachant qu'elle ne dormira pas, pas cette nuit, pas quand la musique portant les vies de Renata, Carlos, Mère et Franz résonne encore à ses oreilles, marine et salée d'embrun, de misère et de joie. Dans une entrevue récemment accordée au quotidien Le Devoir, Pierre Lefebvre, rédacteur en chef de la revue Liberté, explique que la culture et la littérature sont des contre-pouvoirs. L'opposition officielle, dit-il, c'est toujours la littérature, c'est toujours elle qui parle à côté du pouvoir. Ces propos peuvent être entendus de différentes façons, mais j'y entends pour ma part que le pouvoir de la littérature est un pouvoir parallèle, souvent souterrain, qui fait son œuvre à côté des discours officiels, des paroles de bois creux, et qui mine lentement l'illusoire stabilité du sol où chacun croyait se tenir droit. J'y entends que malgré l'incurie de nos dirigeants, la littérature doit continuer de dire que là se trouve sa réelle force de frappe, qu'elle doit continuer de s'acharner sur ces quelques mots qui la hantent, puisque là est sa raison d'être, dire. Mais ce dire de la littérature doit trouver un écho, susciter quelques résonances s'il ne veut tomber dans la stérilité de l'isolement, dans la parole s'affaissant sur elle-même. Il doit être le lieu d'un dialogue où des voix parallèles, se croisant en ces merveilleux points de fuite où l'horizon donne son nom à l'infini, où des voix complices, dis-je, se parle de la fureur de certaines neiges, Kamouraska dans le souvenir d'Elisabeth, de certains couteaux s'abattant sur les gorges blanches des lumières doux de William Faulkner, de certaines musiques échappées d'un roman de Boris Vian. Il doit trouver ses mains qui ouvriront le livre et affronteront le blizzard venu du fleuve, plisseront les yeux devant la lumière de l'été, pendant qu'au loin montera de l'herbe rouge un air de Miles Davis ou de Charlie Parker. À quoi bon faire tomber un arbre, en effet, si personne n'entend sa chute? À quoi bon ce bruissement de feuillage et ces grondements de scie à chaîne? À quoi bon l'écriture si personne n'est là pour entendre? Voilà ce que veut également la littérature. Elle veut un lecteur, car si elle sait qu'elle ne peut attirer les foules, à quelques exceptions relevant d'une rare nécessité, elle sait également que la condition de son existence repose dans les mains de celui qui ouvrira le livre. Celui-ci disparaîtrait-il qu'elle disparaîtrait aussi? Car l'objet littéraire est une étrange toupie qui n'existe qu'en mouvement, nous dit Jean-Paul Sartre dans Qu'est-ce que la littérature? Pour la faire surgir, il faut un acte concret qui s'appelle la lecture, et elle ne dure qu'autant que cette lecture peut durer. Hors de là, il n'y a que des tracés noirs sur le papier. Sans lecteur, pas d'écrivain, pas de littérature. Tout se trouve dans cet acte par lequel j'interpelle le lecteur pour qu'il fasse passer à l'existence objective le dévoilement que j'ai entrepris par le moyen du langage, poursuit Sartre un peu plus loin. Et il me paraît justifié, en cette époque où l'on semble préférer l'indigeste s'il se consomme rapidement et facilement, de s'interroger quant à la survie de ce lecteur sans qui toute tentative d'écriture est vaine. Plusieurs ont déjà sonné le glas de la littérature, d'autres celui du livre imprimé, mais très peu, que je sache, ont évoqué la possible mort du lecteur. Qu'en serait-il toutefois si nous le voyons défiler dans un linceul de papier blanc? Dans La vie secrète de E. Robert Pendleton, de Michael Collins, le personnage d'Addy se désole en ces termes de ce que les éloges adressés à l'écrivain n'atteignent pas les tribunes du public. Addy pensa à son existence d'avant, l'étudiante diplômée, faisant jouir entre ses seins les écrivains de passage, une seule nuit contre l'humiliation de la vie moderne de l'écriture, la dichotomie exaspérante des articles élogieux devant la réalité d'un public indifférent qui ne lisait pas. Cette humiliation de la vie moderne de l'écriture évoquée par Collins n'est pas une simple formule lapidaire destinée à appuyer des propos sans véritable fondement. Nous l'avons tous connue, cette honte, quand circulent devant nous les collectionneurs de signets qui ne lisent pas, mais se proposent d'écrire le livre qui se vendra à 100 000 exemplaires. Car il faut de la copie pour assurer le sérieux d'une œuvre, car il faut des pages, des milliers et des milliers de pages qui s'envoleront derrière les feuilles rousses ouvertes des arbres coupés. La littérature ne veut pas de cette humiliation qui lui viendrait de ne pas être lue. Elle ne veut pas être cette perle inféconde et se voir confinée au rôle pathétique et ridicule de qui s'égosille dans le désert. Mais peut-être est-ce s'attaquer à un faux problème que de s'attarder à un public qui ne lit pas et ne lira jamais. Et c'est assurément faire fausse route que de s'afficher dans des foires où le littéraire fait office d'élément de décor un peu démodé, où il remplit les vides qu'il faut bien remplir pour assurer la bonne conscience d'organisateurs ne mesurant pourtant le succès qu'au nombre de tours de tourniquets et de billets vendus. Le lecteur par qui j'existe, je ne trouvais pas assis au sommet d'une pile de livres, s'auto-détruisant aussi rapidement qu'il se consomme. Mais peut-être le trouverai-je dans cette voiture qui vient de passer sous ma fenêtre, entraînant dans son sillage la voix de Brel chantant « J'arrive ». Nous sommes le 21 mars, jour où nous soulignons officiellement l'arrivée du printemps, même si les marées d'équinoxe nous signalent que la tradition a pris du retard. On nous annonce 26 degrés et un temps clair, une journée d'été se pressant devant le solstice. Et pendant un instant, j'ai envie de courir après cette voiture ressuscitant Brel avant le Christ et l'envolée des cloches pascales. Quand j'entends derrière moi la voix de Noah Eisenbaum, écrivain vieillissant avec qui j'ai frayé il y a quelques années, après l'avoir couché, quasi grabataire et crachant sur sa vie de misère, dans un livre que peu ont lu. Je l'entends qui me traite d'imbécile de sa voix d'outre-tombe et m'assène que plus personne n'écoute Brel, que mon lecteur est moribond et que si j'avais un brin d'intelligence, il ne parle même pas de sagesse, toute prétention à la vérité lui donnant la nausée. Je me recyclerais dans la vente au détail ou dans l'immobilier, dans quelque activité où je n'aurais pas à demander une chambre à moi après une vie de labeur. Puis il crie et il hurle. C'est dans ses cordes. Et je le laisse hurler. Car noir représente cette part de moi qui a besoin de gueuler et de peindre ses murs en noir. Cette part de moi que la foi a désertée autant que l'espoir. Et qui se lève certains matins avec cette idée que son lecteur a effectivement passé l'arme à gauche et que la littérature est sur le point d'expirer. Car qui écoute encore Brel, en effet? Qui lit de la poésie? Et qui chante encore que de chrysanthème en chrysanthème, nos amitiés sont en partance? Puis le souffle de l'ami mort, qui aurait pu chanter J'arrive jusqu'au dernier départ, effleure doucement ma nuque, pendant que défilent devant moi les chrysanthèmes qui occuperont mon esprit toute la journée, tombant jaunes et blancs dans les cafés se refroidissant. Je pense que mon amour des fleurs chantées ne fait pas de moi l'un des spécimens d'une espèce en voie de disparition, et que si je peux respirer à fond au milieu d'un jardin semé de nostalgie, d'autres le peuvent aussi, qui écouteront les fleurs pousser en ouvrant un recueil de Louise Dupré, d'Hélène Dorion, de Roger Desroches, d'Hélène Monette, de Nicole Brossard, de Jim Morrison, de Renaud Longchamp, d'Emily Dickinson ou de Charles Baudelaire. J'ignore quel est le bilan de santé du lecteur de littérature et s'il faut redouter sa mort à court terme. Mais cette fièvre plus ou moins aiguë qui me pousse tous les matins vers ma table de travail me dit que, puisque ma main a encore envie d'écrire un roman, reprenant l'un ou plusieurs de ces thèmes universels qui ne s'épuiseront que dans l'infini. Mort, haine, mémoire. Mort, folie, amour et origine. Que si elle a encore envie d'écrire Bondré est un territoire d'ombres et de lumières contrastées, il voit bien se trouver quelqu'un pour me suivre dans la forêt de Bondré. Puisque j'ai besoin du lecteur pour assurer mon existence, je déduis la sienne de notre contemporanéité, du fait que nos intérêts ne peuvent que se rejoindre dans les sphères plus ou moins élevées de cette atmosphère où se déploie la pensée d'une époque. J'établis notre rapport sur une forme de réciprocité du goût et me dis que si j'ai besoin de ce lecteur, il a aussi besoin de moi. Tout comme j'ai autrefois eu besoin de Sartre, ce romancier que plus personne ne lit, mais auquel je me référerai une dernière fois pour dire que l'écrivain choisit d'en appeler à la liberté des autres pour que, par les implications réciproques de leurs exigences, ils réapproprient la totalité de l'être à l'homme et referment l'humanité sur l'univers. Bien entendu, des limbes où les règles du marché l'ont rapidement propulsé, Noah Eisenbaum s'esclave, encore heureux que les morts rient. Mais le rire de Noah est grinçant, de la même tonalité que les tourniquets qui bêlent « Au suivant !» Car il sait que la vie est brève, Noah. Il ne songe même pas à la postérité, puisque la postérité, a-t-il décrété un jour en pointant sa main vers la terre tremblante, est une notion d'un autre temps. Il songe à la vie du livre, qui tombe des tablettes bancales des librairies sitôt qu'on l'y a posé, en vertu de quelques phénomènes gravitationnels tirant nos sociétés vers le bas. Il songe à ce livre en déséquilibre qui sera vite poussé par le dernier né de X ou Z, par le dernier ouvrage pratique sorti des presses, prêt pas prêt, j'y vais pareil, qui chutera à son tour au creux de l'immense dépotoir où vont les livres, la majorité des livres, encore mouillés de l'encre d'imprimerie. Or, il ne fait que suivre en cela la mouvance d'une époque qui court après son souffle, en même temps qu'elle mord l'ombre de sa queue. D'une ère fondée sur la production à outrance, l'amoncellement du prêt-à-jeter, l'accumulation du même en vue de sa rapide destruction, qu'il s'agisse d'œuvres dites littéraires, de livres n'ayant d'autres préoccupations que d'offrir un peu de répit au corps fatigué, ou de torchons javelisés prétendant ériger l'insignifiance au rang des beaux-arts. Tous à l'abattoir, et que ça saute. Or, l'une des choses qu'aimerait la littérature, l'une des choses qu'elle voudrait, c'est durer le temps que son souffle s'apaise, le temps qu'on l'emporte sur une plage où son encre séchera, effet du vent et du soleil, et du regard qui s'y attardera. Avec le temps s'effacent les encres et les nervures vivaces du marbre, écrit Louise Dupré dans une écharde sous ton ongle. Avec le temps va, tout s'en va, renchérit Léo Ferré. Avec le temps, oui, toutes les encres se dilueront, tous les cœurs tracés sur les parois des rocs le long des autoroutes, Jack Love Lucy. Cela est vrai, Toute pérennité décline un jour, tout texte s'efface, y compris celui gravé dans la pierre. Tous les jours deviennent poussière, ashes to ashes, dust to dust. Et ceux de Jack et de Lucie s'effriteront aussi. Mais avant la terre noire, avant le vent du large dans sa chevelure empoussiérée, l'écrivain aimerait qu'on ne le condamne pas à mort tous les 3 ans, et que son dernier livre dure au moins le temps qu'il a mis à devenir livre. Ce livre, l'écrivain voudrait que le lecteur ait l'occasion de le voir passer dans le tourbillon des parutions, dans l'envol des bandeaux, jaquettes et autres couvertures emportées par le vent du jour au-dessus des immenses cuves où ils seront broyés par le pilon. Mais comment contrer cette course effrénée n'ayant peut-être d'autre but, au fond, que de repousser la mort? Comment stopper ce mouvement faisant de l'œuvre créatrice le lieu de l'éphémère? Il existe des œuvres, je sais, ou encore des fragments, conçus pour naître et mourir dans cet éphémère. La pensée du prêt-à-jeter a rattrapé certaines générations élevées dans la friabilité du moment, dans l'image multipliée de la destruction quotidienne du monde. Il n'est pas étonnant que ces nouvelles générations inscrivent leurs œuvres dans ce courant où l'autodestruction va presque de soi, puisqu'on leur a appris qu'aucune image ne dure, que le goût du jour assourdit les échos d'hier et les écrase. Il est possible que je me fasse vieille et n'y comprenne rien. Mais pour ma part, je n'écris pas et n'ai jamais écrit pour m'abîmer dans l'instant. Si tel était mon but, j'écrirais sur des murs près desquels attendent les rouleaux des peintres. Je m'oppose à cette mort à long terme, à cette hypothétique entreprise de négation de la mort par l'accumulation puis l'annihilation du même. Je déplore cette prolifération des titres, qui n'est en somme qu'une autre façon de répondre à l'ennui d'une société ayant oublié l'objet même de son ennui, et tentant de combattre l'oubli en se jetant à corps perdu dans la recherche d'une nouveauté n'ayant d'inédit que son apparence pas toujours trompeuse. Sans repère autre que ceux associés à l'accumulation de l'avoir, nous multiplions ces montagnes de déchets du sommet desquelles nous espérons naïvement apercevoir un nouvel horizon. Pardon. Que veut l'écrivain? Que veut la littérature devant ces montagnes trop vite dressées, devant ces monts ayant perdu la stabilité du roc et masquant l'horizon au lieu de le révéler? Au risque d'être taxé d'élitisme, et je prends ce risque allègrement, si tant est que l'on considère comme élitiste le désir du forgeron de ferrer correctement son cheval, la colère du cordonnier devant celui qui s'improvise poseur de semelles et rabaisse la valeur de son travail. Au risque d'en choquer quelques-uns, je me jette à l'eau, car il est un anti-élitisme, un anti-intellectualisme beaucoup plus insidieux, auquel l'odeur des pâquerettes permet d'occulter ce qui lui échappe ou le menace. Et j'ose affirmer que la littérature voudrait que l'horizon se dégage, et qu'il se dégage d'est en ouest, from coast to coast, de Vesoul à Virzon, qu'on voit enfin un peu de bleu, please, quelque part derrière la montagne. Mais ce dégagement espéré exige que l'édition se fasse plus sélective, et que les éditeurs québécois, je prêche ici pour ma paroisse, soient libérés du carcan d'un système subventionnaire les incitant à publier plus qu'il n'est nécessaire et souhaitable, de système dans lequel le seul qui a véritablement intérêt à vendre des livres est l'écrivain, puisqu'il est le seul auquel la vente permettra de mettre un peu de beurre sur son pain. Qu'on me comprenne bien, je n'accuse pas nos éditeurs de négliger la promotion de leurs publications, loin de là. Je dis seulement qu'ils sont à la fois les bénéficiaires et les victimes d'une machine subventionnaire, les contraignant à des normes où la quantité l'emporte souvent sur la qualité, et que, de tous les acteurs de ce système, c'est la grenouille qui demeure la plus affamée. Raison pour laquelle elle aimerait, pauvre petite grenouille, que certains producteurs de livres s'affranchissent des règles d'une économie de marché, les poussant à se mirer dans le multiple et à mesurer leur appétit à celui d'un consommateur dont l'assiette déborde. Dans les conditions actuelles, l'édition mange ces petits. Elle les dévore aussitôt nés, avant même que leur vagissement se soit mué en quelques paroles audibles et susceptibles d'être entendues. Elle sonne l'avènement d'un nouveau type de cannibalisme auquel l'écrivain participe également, car la nature quasi compulsive de l'édition actuelle n'est pas seule en cause. L'écrivain, lui aussi, est victime de cette pulsion qui le pousse à publier et à publier encore, parce qu'il est lui-même pris au piège du nombre et de ses miroitements, ou parce qu'il tente, à sa manière également, de repousser la mort qui le taraude, de nier sa fin prochaine. J'aime cependant à penser que nous connaîtrons un jour une époque où il ne se publiera pas plus de livres qu'il ne s'en écrit, ainsi que le dit Montchamp en paraphrasant Maurice Blanchot. Et je songe à la lenteur du poème, le très beau film du cinéaste sud-coréen Lee Chang-dong, dans lequel un professeur de poésie demande à ses élèves d'écrire un poème, un seul, durant les quelques semaines que durera le cours. C'est la tâche qu'il leur impose, et dont la plupart ne seront ou n'auront pas la prétention de s'acquitter. Une seule élève écrira un poème, Madame Mia, qui sera en réalité un poème d'adieu. Moment de faire mes adieux. Si maintenant vient l'obscurité, sera-t-elle rallumée, la bougie ? Écrit Anne Miha, qui, maintenant qu'elle a terminé son seul et dernier poème, décide de quitter la terre des hommes pour quelque hypothétique royaume, ou pour plus de silence simplement, un peu plus de noirceur éternelle. Devons-nous voir dans cette disparition une allégorie chantant la mort, chantant la douceur de la mort, une fois la parole épuisée ? Je l'ignore. Ce que je retiens, c'est que nous sommes ici dans un autre univers, dans une autre culture, probablement exacerbée par la fiction, mais où circule un vent qui donne envie de s'asseoir et de faire taire la pensée qui s'agite. Nous sommes devant une œuvre qui donne envie d'oublier le halètement de l'Occident pour retrouver le vacillement de la bougie, auquel je me prends parfois à rêver en humant l'odeur calme de la cire, en souhaitant le retour d'un temps indolent où la capacité d'absorption du regard ne serait pas bousculée par l'urgence. L'urgence de quoi ? Je l'ignore aussi. L'urgence de fuir, l'urgence d'oublier. Mais quoi ? Mais quoi ? Mais la mort, mon ami, et le froid dans ma paume quand tu me désignes le soleil et ce grand précipice où il semble faire bon. Mais la mort et le temps qui m'échappe, et le regret déjà du chien que je ne verrai plus courir sur le sentier, du passé trop immense pour ce qu'il me reste encore de jour. Dans la ménagerie de verre de Tennessee Williams, Amanda dit ceci à Tom. De tous les jeunes gens de ma connaissance, tu es le seul à ne pas savoir que l'avenir devient présent, le présent passé, et le passé l'objet de remords éternels lorsqu'on n'a pas su le prévoir ni le préparer. Se pourrait-il que nous n'ayons pas su prévoir notre passé ni le préparer correctement ? Se pourrait-il que ce manque de vigilance nous ait jeté dans ce présent qui nous échappe et nous pousse à fuir fiévreusement vers l'avant ? Se pourrait-il que la littérature n'ait pas préparé son passé et que de là vienne qu'elle étouffe sous la pression du surnombre ? Devant la prolifération actuelle des œuvres et devant celle qu'entraînera la nouvelle configuration du paysage éditorial, où le littéraire sera soumis aux règles de la tentaculaire et tarentulaire toile où se dessine notre avenir. J'ai tendance à me dire que nous avons quelque part raté le coche et qu'il faudrait peut-être préparer le passé de ceux qui nous suivront pour leur permettre ensuite de justifier le nôtre et l'héritage que nous leur laisserons. « Poètes à venir », écrit Walt Whitman. « Orateurs, chanteurs, musiciens à venir », ce n'est pas aujourd'hui qui doit me justifier et dire pourquoi je suis, mais vous, race nouvelle. Vaste programme, et d'autant plus vaste que l'astronomique et toujours plus astronomique masse d'informations numérisées sur le web ne fait pas de réelle distinction entre le juste et l'erroné, entre ce qui relève de l'amateurisme et ce qui doit sa forme à des années de travail et de réflexion, à ce qui fait qu'une pipe n'est pas une pipe, que Flaubert et Madame Bovary, que les pommes de Cézanne ne peuvent être croquées, et qu'un roman n'est pas une tranche de vie saignante prise au vif de la vie mordant la pomme, que la littérature, bref, renferme à la fois le monde et le non-monde. La seule raison d'être du roman est de dire ce que seul le roman peut dire, écrit Milan Kundera citant Hermann Brock dans L'art du roman. Et ce dire du roman, tout comme celui de toute autre forme d'écriture, surgit du cœur même de cette forme que l'écrivain aura mis des années à maîtriser, pour que la pomme soit une pomme, mais pas une pomme. Comment se dire alors sera-t-il émergé de la masse d'informations circulant dans le cyberespace ? Et comment le distinguera-t-on des épanchements d'une amoureuse éconduite, des confidences du retraité croyant qu'il suffit d'un peu de temps pour émuler Shakespeare, ou des métaphores douteuses de quelques jongleurs de verbes creux, bloguant à qui mieux mieux. Je ne prône ni ne souhaite la disparition de ces écrits. L'espace de la parole appartient à tous. Et s'il peut résulter quelques bienfaits de l'occupation de cet espace, la parole aura fait son œuvre. Je ne peux également que saluer l'avènement de la vaste entreprise de démocratisation de la connaissance que constitue Internet. Mais me demande néanmoins quelle place occupera la littérature dans ce fouillis où le futile côtoie l'inutile autant que le sublime. Comment parviendra-t-elle à y rejoindre ce fameux lecteur sans lequel elle n'est rien? La littérature n'aura d'autre choix ici que de s'en remettre au lecteur, que d'espérer qu'il puisse s'orienter sans se perdre dans cette labyrinthique surabondance qui n'est pas sans évoquer la bibliothèque de Babel de Borges, où, pour une ligne raisonnable, pour un renseignement exact, il y a des lieux et des lieux de cacophonies insensées, de galimatias et d'incohérences. Elle devra accorder sa confiance au jugement de ce lecteur et à son désir que ses pas le mènent vers l'un de ces innombrables hexagones où il trouvera enfin le livre qui l'attend. La littérature n'aura d'autre choix, par ailleurs, que de s'en remettre à ceux qui formeront ce lecteur, à ceux qui conçoivent nos programmes d'enseignement de la langue et de la littérature, c'est-à-dire, au final, aux représentants de ce pouvoir qui stagne et trop souvent régresse, en suivant la courbure d'un cercle infiniment vicieux, où notre littérature, par le fait cette fois de quelques forces centrifuges, se voit confinée à la périphérie, au profit d'une littérature étrangère et parfois dépassée, qui, pour sa part, en occupe le centre. Elle n'aura d'autre choix, en fait, que d'espérer qu'une lumière nouvelle illumine les cerveaux de nos dirigeants et que la littérature ne se voit pas projetée dans une parodie du Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, où plus aucun autodafé ne serait nécessaire, puisqu'il n'y aurait plus aucune mémoire à incendier. J'anticipe et ne crois pas que le Big Brother ou la Big Sister de la littérature soit à nos portes. Pour le moment, je crains plutôt que la littérature soit engloutie dans cette forêt du nombre dont l'ombre pèse sur ce texte. Car ce n'est pas tant la mort du livre sous sa forme imprimée qui m'inquiète que cet engloutissement graduel. De toute façon, comme le dit en substance Umberto Eco dans « N'inspirez pas à vous débarrasser des livres », le papier, jusqu'à preuve du contraire, demeure le support le plus fiable malgré sa fragilité. Non, la mort du livre qui sent bon ne m'inquiète pas. C'est qu'on écrase son contenu jusqu'à le rendre illisible qui me fait peur. À tort ou à raison, je redoute ce brouillage d'ondes issu de la surabondance, qui n'est pas, peu s'en faut, le seul fait de notre époque tristement surpeuplée, à moins de considérer que, d'un certain point de vue, toute époque est surpeuplée. Dans son apologie du livre, Robert Danton, journaliste et historien du livre, cite cet extrait d'une lettre de Niccolò Perotti, humaniste et érudit italien, à Francesco Guarnerio. Car, à présent, que m'importe qui est libre d'imprimer ce qu'il veut? On ignore souvent le meilleur et on écrit au contraire, simplement pour le divertissement, ce qu'il serait préférable d'oublier, ou, mieux encore, d'effacer de tous les livres. Et même quand on écrit quelque chose qui mérite d'être lu, on le tord et le corrompt au point qu'il vaudrait bien mieux se passer de tels livres, plutôt qu'en avoir 1000 exemplaires qui répandent des faussetés de par le vaste monde. Nous sommes en 1471, à peine 20 ans après l'invention de l'imprimerie moderne. Gutenberg est mort depuis 3 ans, et il faudra environ 5 siècles pour qu'un nouveau mode de diffusion de l'écrit, j'ai nommé Internet, concurrence véritablement l'invention de Gutenberg et de ses contemporains. Et pourtant, il se trouve déjà un homme, en cette fin de siècle où le Moyen-Âge s'illumine, où le caractère mobile vacille encore sur ses empattements, pour déplorer la diffusion de textes qu'il serait préférable d'effacer. Le problème soulevé par cet homme, Niccolò Perotti, n'est pas nouveau. Il est vieux comme le monde, aussi vieux que le mot parabola, parabolum, parabolus. Il nous indique que dès qu'un instrument libère la parole de cet animal imbu de sa relative sapience, il donne aussi libre cours à l'excès et à la bêtise. Devant cela, peut-être devons-nous nous consoler en nous disant que les contraires s'annulent et que s'établit un nécessaire équilibre dans tout système dont le poids des parties opposées se neutralise, que tout désordre ne mène pas à l'entropie. Je réfléchis à la logique de ce dernier raisonnement Et voilà que, par je ne sais quelle faiblesse de l'argument, le syndrome Eisenbaum me rattrape, noircissant jusqu'à ma fenêtre. Comme Noah Eisenbaum, j'ai peu de foi en l'homme. Et pourtant, en qui croire quand on n'est qu'une femme et qu'on n'a plus de Dieu? Je peux croire aux arbres, bien sûr. Je peux croire à la mer, et j'y crois. Mais avant que meure l'homme, je suis encore une femme. Une femme, Eisenbaum, qui croit aussi que parmi tous les brouillons circulant de par le vaste monde, la littérature demeure et ne se trouve pas encore dans cette position où elle aurait à demander grâce, auquel cas elle serait déjà agonisante et n'existerait plus qu'en tant que pathétique témoin d'un autre âge. L'âge de la littérature n'est pas mort, et se poser la question de la survie du littéraire ne serait pertinent qu'en tant que le littéraire consentirait à mourir. Mais qui pense à mourir avant d'avoir achevé son dernier livre, sa dernière phrase, son dernier poème, ainsi que Jan Mihla a attendu d'avoir écrit « Maman, de faire mes adieux pour fermer les yeux ». Qui donc voudrait cela? Celui qui ne croit plus, me souffle Eisenbaum. Celui qui a mal, murmure la mi-mort à mon oreille. Celui qui a mal et encore mal. Comme Virginia Woolf se jetant dans les eaux de la rivière Rose. Comme Hubert Aquin retournant contre lui le fusil de son père dans les jardins de Villa Maria. Comme Stefan Zweig en compagnie de Lotte Altman, son épouse. Comme Roland Giguère se laissant sombrer dans la rivière des Prairies. Comme Nelly Arcand, Claude Gauvreau, Ernest Hemingway, John Kennedy Toole, Sylvia Plath et tant d'autres. L'humanité ne perd rien lorsqu'un écrivain décide de se taire, dit Frank Bascombe, écrivain ayant lui-même renoncé à l'écriture dans un week-end dans le Michigan de Richard Ford. Peut-être Bascombe a-t-il raison, mais je ne peux m'empêcher de penser que l'humanité a perdu gros lorsque tous ces hommes et toutes ces femmes dont je viens d'évoquer le souvenir ont choisi le silence. Mais à quoi bon s'acharner si la douleur brouille la parole? À quoi bon continuer si ce qu'il y avait à dire a été écrit? D'autres que Zweig, Aquin, Arcand, Woolf ont préféré se taire aussi, sans pour autant choisir le feu, la corde ou la rivière. Le nom de Rimbaud, évoqué tout à l'heure, me vient d'abord à l'esprit. Car comment ne pas penser à ce jeune homme à qui une saison en enfer semble avoir suffi? Puis je songe à J.D. Salinger, à Robert Walser, à tous ces Bartleby, à tous ces écrivains du refus ou de la négation dont Enrique Villamatas retrace le parcours dans Bartleby et compagnie. Il est dans l'ordre des choses que certains décident de se taire, tout comme il serait dans l'ordre parfait des choses que ceux ayant épuisé leurs sources se taisent aussi. Mais qu'aurions-nous perdu si Proust s'était contenté de regarder le monde en soulevant de son lit son rideau de dentelle? Si Shakespeare avait préféré l'épée à la plume, si Homère était mort à Troie. Et de quel savoir, de quelle pensée aurions-nous bénéficié en contrepartie si nous avions eu accès aux livres incendiés d'Alexandrie, aux œuvres à jamais disparues de Sophocle, Lucrèce, Cervantes, et de ces dizaines de philosophes et d'écrivains que Stuart Kelly réunit dans un livre intitulé « The Book of Lost Books ». La réponse va de soi. Les pertes d'un côté sont incalculables, et de l'autre les gains immenses. L'humanité ne serait pas telle que nous le connaissons si Shakespeare et Proust n'avaient pas eu un penchant pour l'écriture, si Max Brod avait respecté les dernières volontés de Kafka et détruit ses manuscrits, si James Joyce s'était noyé au fond d'une bouteille d'Irish whisky, si Mary Shelley s'était tue du simple fait qu'elle était une femme dans un monde d'hommes. Nous avons une chance inouïe que nous soient parvenues ces œuvres dont l'influence, si elle est difficilement mesurable, a inéluctablement modifié notre vision du monde qu'habite l'homme. Parce qu'il en va de la pensée comme de ses réactions en chaîne, dont nous ne percevons pas les innombrables points d'impact, mais dont nous mesurons les effets jusque dans notre façon de cueillir un brin d'herbe. Et parce qu'aucun grand livre, une fois ouvert, ne peut être refermé. Peut-être un jour la littérature considérera-t-elle qu'elle a assez parlé. Peut-être estimera-t-elle en avoir assez dit. Mais je ne crois pas ce jour prochain, puisque l'herbe pousse encore, puisque les arbres aussi, puisque je vois encore quelqu'un ouvrir un livre à la fenêtre du train qui s'ébranle, pendant qu'au loin la voix d'Ulysse résonne sous le chant invisible des sirènes. Et voilà, je me tairai aussi à mon tour.
Merci beaucoup, André, de cette magnifique conférence qui nous ouvre des pistes essentielles pour l'échange qui va suivre. En avançant entre les trois pôles du désir, du vouloir et de l'espoir, vous nous avez fait pénétrer dans la chambre de l'écrivain. Vous nous avez rappelé ce que veut l'écrivain n'est pas nécessairement ce que veut la littérature. Si ce que veut la littérature n'a jamais été simple, ce l'est encore moins aujourd'hui, où les conditions de l'écriture sont remises en question par la prédominance d'une économie de marché qui affecte le domaine de l'édition et favorise la littérature de masse au détriment d'une littérature que vous taxez d'élitiste. L'écrivain, tout en étant d'accord avec le mot, l'écrivain, dites-vous, a besoin du lecteur comme le lecteur a besoin de l'auteur. Mais vous répondez aussitôt que la littérature n'a d'autre choix que de faire confiance au lecteur, comme elle doit faire confiance à ceux et à celles qui forment les lecteurs. Votre texte se termine sur un pari, faire confiance, espérer. Merci. On a du temps pour un échange, une discussion, pour des commentaires. Je ne sais pas si certains d'entre vous voudraient poser la première question ou faire le premier commentaire. Alors peut-être une première question. Ce défi-là de l'écriture aujourd'hui, se faire confiance à la littérature, vous en avez très bien parlé, de façon aussi très nuancée. Est-ce que vous le voyez actuellement dans le milieu de l'écriture au Québec?
C'est-à-dire, je pense que j'ai mal compris votre question. Est-ce que je vois le défi?
Ce défi-là que veut auquel vous conviez la littérature, ce défi-là, cette confiance-là qu'il faut faire en une lecture possible, en une formation possible, en un avenir de la littérature, est-ce que vous le voyez actuellement?
Je ne sais pas, je ne dis pas dans mon texte que je fais partie des pessimistes pour ce qui est de l'enseignement de la littérature. Non, je pense qu'on a beaucoup de chemin à faire. Par contre, des événements comme celui-ci prouvent que bon, la littérature est encore vivante, qu'il y a encore des lecteurs de littérature, qu'il y a encore des gens qui se préoccupent de la chose. Comment tout ça va évoluer, je n'en ai aucune idée. Je suis un peu inquiète, c'est sûr, je le dis bien dans mon texte. Mais bon, je pense que tant qu'il y aura un lecteur qui va subsister, ce lecteur-là va peut-être, entraîner à sa suite d'autres lecteurs, c'est ce qu'on souhaite. Mais je pense qu'il faut aussi une volonté politique. Dans l'état actuel des choses, la littérature n'est pas défendue nulle part, sur aucune tribune, sauf à l'intérieur de cercles fermés comme ici. Je pense qu'il faudrait qu'on la sorte un peu dans la rue.
On sent d'ailleurs toute la dimension politique qui sous-tend votre texte, et l'engagement vers la littérature, mais qui ne doit pas rester un engagement personnel, mais un engagement collectif. D'autres commentaires ou d'autres questions? Moi, j'ai beaucoup aimé dans votre texte une notion que je trouve courageuse, celle d'assumer la position d'élitisme. Qui est une position actuellement qu'on se sent presque coupable d'assumer. Parce qu'il faut parler pour le plus grand nombre, il faut faire en sorte qu'on représente le plus grand nombre. Alors, personnellement, ça me semble une notion extrêmement importante, de rappeler justement que on est là, les écrivains. J'ai beaucoup aimé votre métaphore du cordonnier qui veut faire des bonnes chaussures. Et effectivement, l'écrivain est celui, n'est-il pas celui qui veut faire en sorte que son livre soit un beau livre, un livre solide?
Je porterai quand même une nuance à ce que vous dites. Quand je parle d'élitisme, je dis au risque d'être taxé d'élitisme, je ne pense pas que ne pas parler nécessairement au nom de la majorité constitue une forme d'élitisme, en autant qu'on dise que l'élitisme, c'est de vouloir faire les choses correctement, c'est de vouloir défendre ses passions, défendre son métier. C'est ça, je pense qu'il faudrait trouver un autre mot qu'élitisme, pour simplement dire qu'on est là pour défendre notre position, qui est peut-être une position marginale, mais qui n'est pas pour autant élitiste, je crois.
Oui, madame.
S'il y a une dimension politique dans votre texte, peut-être qu'il y a des intérêts politiques importants à ce que les gens ne lisent pas, et surtout pas de littérature.
C'est possible, on a connu le temps de la censure. Il y avait aussi le temps où on avait l'index au Québec, où le clergé avait tout intérêt à ce que les gens lisent le moins possible. Par contre, est-ce qu'on est dans une époque où on préfère que les gens ne lisent pas? Si tel est le cas, ça m'effraie énormément. Je pense que la liberté de parole et la liberté de lecture sont encore là. Si par contre il y a des mouvements souterrains qui sont là pour empêcher les gens de lire certaines choses, ce serait bien épouvantable, mais je ne crois pas qu'on en soit là et j'espère qu'on n'y reviendra jamais.
C'est pas ce que je voulais dire.
D'accord.
Je vis dans un quartier entouré de gens qui ne manquent pas d'argent, mais qui ne le mettraient jamais dans des livres. Et surtout pas dans la littérature, qui le mettent dans un gros chat à houle, excusez-moi, ou bien dans un petit chien-chien pour combler leurs besoins affectifs, remplacer la maîtresse, l'amant, le mari, etc. Alors, je ne crois pas que ces gens-là aient même l'idée qu'on pourrait se nourrir de littérature, qu'on pourrait évoluer en lisant. Et c'est ce que je voulais dire.
D'accord.
Et je pense qu'il y a un aspect politique dans ce que vous dites, mais il y a aussi l'aspect économique qui est très important. Pour que roule l'économie, est-ce que c'est bien ou mal de lire de la littérature? Est-ce qu'il faut, si on lit de la littérature, est-ce qu'on mettra autant d'argent dans un gros chat-arbre? Et quand on sait que l'économie nord-américaine tourne autour de l'achat de voitures malgré tous les maléfices que ça apporte, je ne sais pas, c'est un commentaire, c'est aussi un questionnement. Est-ce que vous pensez que je déraisonne?
Non, pas du tout, mais je pense qu'on peut s'acheter un gros char et des livres aussi. Les gens qui ont vraiment de l'argent peuvent se procurer les deux.
J'ai tendance à
imposer. Oui. Bon, moi, j'ai pas de chat, mais j'ai beaucoup de livres, mais c'est pas... Je pense que c'est une autre question. Je ne suis qu'une pauvre écrivaine, mais... Ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. Si on veut que les gens lisent, qu'ils aient de l'argent ou qu'ils en aient moins, parce qu'il y a aussi les bibliothèques qui sont là pour les gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter des livres... Si on veut que les gens lisent, il faut les former à ça. Et actuellement, peut-être que il n'y a pas de volonté de ce côté-là. Peut-être que nos programmes d'enseignement sont pas suffisamment orientés vers la lecture, vers des programmes qui donneraient le goût de la lecture.
Mais est-ce que vous ne pensez pas que les programmes d'enseignement reflètent la société pour qui ils sont créés?
Bien sûr, bien sûr. Et c'est une des choses qu'il faudrait changer.
Monique Larue, des questions commencent à surgir. Monique.
Je me demande, des fois, si on met toujours la faute sur tout le monde, c'est humain, mais est-ce que les écrivains ne seraient pas en partie parfois responsables de la situation en ayant oublié ce que c'est que de vouloir vraiment la littérature? Est-ce qu'il ne serait pas devenu très obéissant sans s'en rendre compte, au pouvoir tout à fait invisible du marché, en fait? Et est-ce qu'on ne devrait pas réapprendre à s'insurger, en fait, et à ne pas s'occuper, non pas du lecteur, mais à ne pas s'occuper de ce qu'on attend de nous, parce que je pense qu'on s'en occupe trop parfois. Mmh. Enfin, c'est un complément.
Oui, moi, je pense que tu as en partie raison. On est parfois très docile, on se plie aux règles du monde de l'édition sans trop...
Mais très sage, hein, on va au salon du livre et qu'on essaie d'être...
Qu'on devrait boycotter.
On essaie quand même d'écrire pour que tout le monde aime ça. Et finalement, est-ce qu'on veut encore quelque chose?
Ouais.
Dominique Robert.
Oui, merci pour votre conférence. Là, je voulais réagir à ce que quelqu'un a dit par rapport au programme d'enseignement, parce que je suis enseignante, et je suis enseignante au secondaire. Alors, on connaît pas souvent les programmes au secondaire. Puis, je voudrais dire que moi, je considère que mon programme, surtout depuis le dernier gros changement qu'il y a eu, extrêmement soucieux de littérature, puis c'est un programme avec lequel j'ai pas de problème, moi en tant qu'étudiante, personne qui défend la littérature, je considère que c'est pas mon programme le problème, et je considère que c'est pas mes élèves non plus, parce que mes élèves, d'une certaine façon, moi j'ai des élèves en difficulté, alors, mais quand ils se trouvent devant quelque chose avec lequel ils peuvent entrer en contact, ils entrent en contact. Mais ils sont pris dans un monde qui les emporte et qui fait que, autant moi que mes collègues ou eux-mêmes, hein, ils sont comme un peu... ils sont emportés, c'est le mot qui me vient à l'esprit. Donc c'était juste pour dire, avant de dire qu'un programme... je pense qu'il y a des gens qui travaillent très fort à faire que... les programmes soient littéraires, prennent en considération la littérature.
Ben, je suis heureuse de l'entendre.
Mais la situation vécue dans le réel est tellement complexe, on est dépassé un peu.
C'est-à-dire que malgré la qualité des programmes, vous n'arrivez pas à intéresser vraiment les jeunes à la lecture?
Bien oui. Ouais.
C'est dommage.
En fait, c'est ça.
Alors, trois personnes ont demandé la parole. On va leur donner la parole et ensuite, je crois qu'on va prendre un verre de l'amitié. François Hébert.
Bon, c'est un bel exposé. C'est difficile. On a pris un peu de temps à trouver des questions parce qu'il y avait énormément de choses qui ont été dites là-dedans. J'ai cru percevoir une tension dans l'exposé entre, d'une part, ce qui commençait par un magnifique patchwork littéraire avec toutes sortes de citations... un déferlement de culture, pas superficiel, mais très amusant, très intéressant, puis on était intéressé par ça, qui m'a fait penser qu'on était dans un monde mondialisé, avec une culture générale, universelle, hétérogène, sinon hétéroclite, avec beaucoup de références, pas seulement québécoises. Donc, d'une part ça, mais une certaine tension, parce que pour trouver une chambre à soi dans ce monde-là, c'est assez difficile. Et puis, il y a une autre chose qui m'a frappé dans votre exposé, c'est quand vous dites qu'il faut préparer le passé. Il faut voir le passé devant soi et non pas derrière. Mm-hmm. Et donc, c'est comme si on pouvait avoir oublié quelque chose en chemin, ou en tout cas qu'il fallait retrousser ses manches et regarder par en arrière. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une certaine contradiction entre ce monde éclaté d'aujourd'hui, multiple, dans lequel il est difficile de se situer, et d'autre part, cette absence de tradition, ou cette recherche d'une tradition, d'un passé sur lequel on pourrait asseoir toute cette multiplicité. Je ne sais pas si ma question a du sens.
Je ne sais pas si je la comprends, mais non, c'est pas...
Non.
Moi, je dirais qu'il n'y a pas de contradiction. Au contraire, c'est justement en retournant vers ce passé qu'on peut peut-être résoudre le problème de l'espèce de folie, de tourbillon dans lequel on est emporté.
Ça fait quoi, ce que Dominique disait, puis les jeunes qui sont dans un monde éclaté, extrêmement difficile à saisir, évidemment, l'image fait une rude concurrence au texte écrit. Et bon, c'est pas tellement ça la question, mais c'est surtout que c'est multiple. Nos lectures sont, je sais pas comment les gens ici lisent, mais on lit de tout. On lit pas seulement de la littérature québécoise, mm-hmm. on lit pas seulement de la littérature dans notre langue, on lit beaucoup de traductions, on lit énormément. Et puis, c'est fascinant, mais en même temps, comment faire une chambre à soi dans ce monde mondialisé, en quelque sorte. Enfin, la question, il n'y a peut-être pas de réponse, mais je pense que c'est une tension importante mm-hmm. pour l'écrivain d'aujourd'hui.
Mm-hmm. Émile Martel.
Je remercie Mme Michaud d'abord de cette panorama qui répond à une multitude de curiosités que j'avais. Je me demandais par où vous alliez prendre la chose. Et de quelle façon...
Je me le suis demandé aussi.
De toute façon, vous alliez ouvrir l'éventail et puis en laissant paraître quelle nuance et quelle couleur. Mais je pense qu'on est beaucoup ici dans cette pièce à avoir à un certain moment rencontré fréquemment des jeunes qui écrivent et qui nous demandent. Je pense que quand vous suggérez, ce qui me paraît juste d'ailleurs, que les éditeurs sont encouragés à la quantité plutôt qu'à la qualité, c'est peut-être un fait, mais j'ai la seule réponse que j'ai jamais trouvée pour ces jeunes, parfois il n'est pas jeune du tout, c'est que, rendez-vous compte, que l'essentiel du plaisir de la littérature, c'est celui, la moitié du plaisir de la littérature, c'est celui que vous avez à écrire, et la deuxième moitié, c'est de vous relire le lendemain, et que demander plus dans une société comme celle que vous décrivez, qui est toujours horriblement pessimiste, avec des gouvernements qui ne reconnaissent pas, des programmes qui ne marchent pas, des gens qui ne savent pas lire, etc., etc., c'est que le bonheur de la littérature est dans l'écriture, et que si on n'a pas ça, il n'y a plus personne qui écrirait. Mm-hmm. Et qu'il faut se souvenir que chez nous, publié ou pas, multiplié ou pas multiplié, l'essentiel du bonheur de l'écriture est dans le fait de le faire, de le relire le lendemain, de le partager avec sa blonde et ensuite essayer d'élargir ça un peu plus. Il faut se souvenir que c'est là le bonheur de la littérature, je pense.
Non, je suis d'accord avec vous.
Et ensuite, on est parfois béni par un succès qui élargit. C'est pas une question non plus. Merci quand même de m'avoir proposé.
Non, non, ça va. Ça...
Alors, dernière question, Naïm Katan.
Oui. Je voudrais savoir si vous pensez que la littérature se donne vraiment, pourquoi pas ne se donne pas les moyens de séduire les nouvelles générations, justement celles qui sont dans la rue en ce moment. Je vois une multitude de blogs nouveaux sur la littérature, des gens qui se lancent à en parler, qui essayent d'être des passeurs, que ce soit sur le net, radio, même des jeunes qui prennent la parole, ils en parlent plus ou moins bien, ils le tentent. Trouvez-vous qu'il y ait assez de moyens aujourd'hui, justement, où la littérature prend les moyens de séduire les futurs lecteurs qu'on critique beaucoup aujourd'hui, mais qui pourraient le devenir et justement découvrir la littérature au fur et à mesure de leur lecture?
Ben, comme vous le dites, les moyens sont nombreux, oui. Tout dépend de quelle façon ils sont utilisés, de quelle façon les commentaires sont reçus aussi. Bon, tant mieux si ça peut permettre la diffusion de la littérature. Quant au désir des écrivains de rejoindre le jeune public ou de faire plaisir, bon, c'est une question un peu délicate parce que en fait, si on écrit en visant un public X, un public donné, je pense qu'on risque souvent de se tirer dans le pied parce qu'il faut écrire ce que soit on a envie d'écrire. Et tant mieux si on rejoint le public de l'époque, mais je me dis que moi, étant une femme de mon époque, inévitablement, il va se trouver des gens sur la même longueur d'onde de moi qui vont avoir envie de lire ce que j'écris, du moins je l'espère. Je pense pas que l'écrivain doit s'adapter au goût du public. Il y en a qui le font, oui, mais là, bon, d'accord, on fait du best-seller ou on fait de
au médium qui existe aujourd'hui, en tout cas pour la faire passer. Je pense que...
Oui, c'est sûr que bon, il y a des gens qui vont plus se tourner vers Internet ou vers des différentes façons de faire de la littérature à travers ça. Bon, c'est pas mon cas. Je me suis pas encore, je suis longue à m'adapter, mais en effet, ces médiums-là peuvent être une façon la diffuser plus largement.
Naïm.
Oui, bon, j'étais très frappé par votre opposition aux subventions aux éditeurs.
Il faut nuancer là aussi.
Non, mais j'ai bien suivi parce que j'étais responsable pendant très longtemps de ça et je peux vous dire des choses que j'ai connues, que j'ai éprouvées de l'intérieur. Les subventions d'abord étaient destinées à des livres qui ne se vendent pas, parce que par des écrivains qui ne se vendent pas, qui ne trouvent pas d'éditeurs. Et tous les éditeurs qui faisaient des livres qui se vendent beaucoup ne recevaient aucune subvention. Et j'ai eu beaucoup d'opposition des éditeurs qui faisaient des livres qui se vendaient. L'Espérance, par exemple, j'ai dit je te félicite, mais tu n'as pas besoin des subventions. Et ce que je veux dire, que sans ces subventions aux éditeurs, la majorité de la littérature qu'on lit maintenant, après 30 ou 40 ans de subventions, n'aurait pas existé, parce qu'ils n'auraient pas trouvé d'éditeur.
Oui, mais je suis entièrement d'accord avec vous. Il faut que la littérature soit subventionnée.
Non, ce que je veux dire, c'est que s'il n'y a pas de subvention, c'est pas les bons livres qu'on va publier. C'est-à-dire, ce que vous voulez qu'on lise ne sera même pas disponible. On peut pas, il n'y aura que des livres qui se vendent, qui seront publiés. Alors, je voulais mettre, parce que
oui,
j'ai beaucoup vécu ces problèmes de l'intérieur, et j'ai vu que sans les subventions, la majorité des livres qui survivent maintenant n'auraient pas existé.
Non, mais je suis entièrement d'accord. Il faut que la littérature soit subventionnée. Peut-être que je me suis mal exprimée dans mon texte. Il faut absolument que la littérature soit subventionnée. Mais bon, peut-être que moi, j'ai pas connu les choses de l'intérieur, mais j'ai l'impression qu'on subventionne plus au nombre, c'est-à-dire à la quantité qu'à la qualité. Et ce qui fait que certains éditeurs, oui, vont publier des livres de littérature qui autrement n'auraient pas pu être publiés. Et merci beaucoup, c'est fantastique que ce système-là existe pour ça. Mais ils vont aussi, boucher les coins avec des livres qui n'auraient jamais été publiés autrement, parce que ce sont des livres qui n'en valent pas la peine, je crois.
Alors, je vous inviterai à continuer la discussion avec un verre de vin. Je vous rappelle que les livres d'Andréa Michaud et les livres des écrivains présents à la rencontre seront vendus par quelqu'un qui représente la librairie Le Port de Tête, et que, donc vous pouvez vous les procurer. Merci beaucoup, Andréa Michaud.
Merci
à vous d'avoir été là.